de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
L'histoire du cinéma est marquée par celle des films qui ne se sont jamais faits. Parmi ceux-là, l'adaptation de La recherche du temps perdu qu'avait écrite Harold Pinter pour Joseph Losey figure sans doute au panthéon des regrets. Toute la carrière de Losey fut marquée par une succession de projets avortés, d'accidents et d'épreuves desquelles il sut toujours se relever. La première fut l'exil, puisqu'il fut dans les années 50 forcé de quitter les États-Unis parce qu'il figurait sur la sinistre liste noire de McCarthy. C'est donc en Europe qu'il tourna la majorité de ses films, et parmi eux, Eva avec Jeanne Moreau en 1962, The Servant avec Dirk Bogarde en 1963, Accident en 1967, ou encore The Go-Between, le messager, qui lui valut une palme d'or en 1971. Lui qui avait fait ses débuts au théâtre adapta également à l'écran La vie de Galilée de Brecht, La maison de poupée d'Ibsen, mais aussi Le Don Giovanni de Mozart. Quelques mois après sa disparition, en février 1984, Dominique Rousset lui consacrait un documentaire pour les mardis du cinéma. Sa femme, Patricia Losey, deux actrices, Jeanne Moreau et Isabelle Huppert, plusieurs collaborateurs et Michel Simon, auteur d'un livre d'entretien qui fit date, y disaient leur admiration sans borne pour le cinéaste. Joseph Losey parmi les siens, première diffusion sur France Culture le 4 décembre 1984.
How are you?
Fine, how are you? You're looking well.
Terrible.
Thank you.
How are you?
Sweet, just sweet to sit on
the road. How is it?
Horrible.
How is it, I said? Yes.
Even better.
Yes.
Sit on
the
road.
So, on commence? On commence?
Pour les photographes, I'm sure.
All right. And say something.
You tell me when you are fed up with your
Maybe I need those.
Oh, brown ones.
Sorry. Ça va maintenant?
I can't see who's here.
Ouais, je
bon,
crois.
Encore,
do we kill
une minute et c'est terminé.
After that?
So what? The lights? Yeah, oh yes.
I hope so, because I can see nobody.
Yeah, Michel.
Peux-on arrêter les lampes, s'il vous plaît?
Ah non, pas possible.
Non?
Pas possible, parce qu'on tourne pour les couvrir. Excusez-moi, monsieur Losey.
Oui. Shoot for television.
All right. Oui.
Excusez-vous, l'audience.
Joseph Losey, parmi les siens.
Oui, mais... Bon, c'est terminé, s'il vous plaît. On peut passer aux questions. Il y avait une question, je crois.
Émission proposée par Dominique Rousset.
Joseph Losey, né le 14 janvier 1909 à La Crosse, Wisconsin.
Est-ce que vous pouvez dire comment vous prononcez votre nom exactement?
Good question. I'm sure that everybody with slightly unusual names has the same problem. In high school, I was called lousy.
Au lycée, j'étais appelé lousy, ça veut dire pouilleux.
My family, which prides itself on a long history, calls itself Losey.
La famille s'appelle Losey.
The French say Losey.
Les enfants français disent Losey.
I cannot get through to anybody unless it's Joseph Losey. So it's like Jules Dassin, who is really Julie Dassin. You know.
Est-ce qu'on s'arrête sur ce problème d'identité ou...
Joseph Losey est mort le vendredi 22 juin 1984 à Londres, il y a moins de 6 mois. ce grand seigneur du cinéma, abattu à l'âge de 75 ans, venait d'achever son 33e film, encore inédit sur les écrans. Une vie d'une incroyable richesse, une longue expérience théâtrale et aussi radiophonique sur la côte est des États-Unis, une carrière hollywoodienne brisée par le maccartisme et la chasse aux sorcières, puis l'arrivée en Europe, Londres surtout et Paris, pour d'autres films, les plus beaux a-t-on dit. Les dernières années enfin, habitées jusqu'au bout par le désir de créer et de tourner. Lozé, dont on garde en mémoire la massive silhouette et le beau visage léonin, a lutté toute sa vie, pour ses idées d'abord, qu'il servait dans ses films, contre les puissances de l'argent représentées trop souvent par ses producteurs, contre la douleur de l'exil. L'homme privé de travail qui un temps utilisa des pseudonymes, qui plus tard dut renoncer à tant de projets, est le corollaire du créateur heureux sur un plateau, parmi ses techniciens. C'est tout cela que ce portrait voudrait montrer, en hommage à un grand cinéaste, profondément humain. Joseph Losey parmi les siens, sa femme, Patricia, deux de ses comédiennes, Jeanne Moreau, Isabelle Huppert, ses collaborateurs, le directeur de la photo Henri Alcan, le décorateur Alexandre Tronner, la scénariste Monique Lange, le directeur de production Pierre Saint-Blanca, ceux qu'il aimait, ceux avec qui il a voulu travailler, mais quelques-uns seulement parmi ses fidèles rencontrés en Europe après l'exil. Et Michel Simon, son meilleur biographe, à qui l'on doit la publication de remarquables entretiens en 1979.
Losey avait comme ça un mauvais... À la fois, il avait un rapport étrange avec l'Amérique, à la fois d'amour fantastique. Je crois qu'il aurait rêvé de terminer sa vie en Amérique, de finir... En tout cas, sinon de vivre en Amérique, du moins de tourner en Amérique. Il a failli faire deux films en Amérique. Silence, qui était un film qui devait se passer à Chicago, qui est un film pratiquement muet, puisque c'était l'histoire d'une sourde muette noire avec un avocat dans une chambre de Chicago pendant les émeutes de Chicago.
Qu'il voulait faire après le Don Juan, je crois.
Qu'il voulait faire après le Don Juan, d'après un scénario magnifique de David Refil, qui avait écrit pour Sidney Pollack et pour Bertrand Tavernier, La mort en direct, c'est un très bon scénariste. Et ce film n'a jamais pu se faire. Et puis ensuite, il y a deux ans, il a failli tourner également... Non, c'était même l'année dernière, au mois de septembre l'année dernière, il devait tourner avec Lee Marvin un film au Texas qui était annulé trois semaines avant le tournage et il avait fait tous les repérages, tout était fait. Et je crois que c'était un homme qui avait vraiment envie de revenir en Amérique. En même temps, l'Amérique, c'était un pays qui ne lui avait jamais fait de succès, qu'il avait non seulement chassé, mais en plus avec une mauvaise conscience.
Fait souffrir, oui, et mal accueilli ses films.
Oui, ses films n'ont jamais été vraiment des succès. Donc il avait, si vous voulez... ces films américains, je crois pas qu'ils se rendaient compte à quel point c'était des très beaux films. Et je crois que Losey avait peut-être, disons, une soif de reconnaissance après avoir tant vécu dans l'anonymat et dans l'obscurité. Et d'une certaine façon, il était très sensible à la fréquentation de Georges Semprun, de Marguerite Duras, de Harold Pinter, de Tennessee Williams, de grands écrivains. Et d'une certaine façon, ces films américains qu'il avait fait à Hollywood au début de sa vie, c'était des films plus obscurs, plus de séries. En fait, ce sont des chefs-d'œuvre, il faut le dire. Je crois peut-être que jamais Losey n'a atteint le même niveau de réussite constante qu'en Amérique. C'est-à-dire que les cinq films américains, La Grande Nuit, Le Garçon aux Cheveux Verts, Haine, M le Maudit, qui est un remake admirable du film de Fritz Lang, et Le Rôdeur, ces cinq films sont des chefs-d'œuvre. Enfin, en tout cas, je ne crois pas qu'il a fait cinq films à la suite en Europe qui soient à ce niveau de réussite. Il a fait des films admirables en Europe, et peut-être de plus grands films que ces films américains, comme Accident ou Cérémonie secrète. Mais en tout cas, sa période américaine est d'une très grande importance, et que de lui-même, il ne l'aurait pas sûrement valorisé comme cela, parce qu'il avait tendance un peu à la diminuer, à en parler moins que de ses films avec Pinter ou autre.
Il n'y avait aucune vie culturelle à Hollywood. C'était « Que faites-vous maintenant ? Qu'est-ce que vous ferez après ?» Combien êtes-vous payé? Est-ce que ce directeur va rester là ou un autre va-t-il prendre sa place? Avec qui couche la femme d'un tel? Qui va quitter la Fox pour une autre compagnie? C'était une ville de garnison avec des conversations de ville de garnison qui ne touchent ni à l'art ni aux idées. Quelque part sur cette route-là, je suis entré au Parti communiste et j'ai fréquenté des groupes hebdomadaires d'études marxistes. J'avais déjà eu des relations avec le parti, mais je n'y avais pas adhéré. Ce fut alors ma grande erreur. À ces réunions, il y avait bien entendu des discussions culturelles.
Alors, Jean Charensol,
15 novembre 79,
poser une dernière question qui va être politique.
Le masque et la plume.
Oui, elle sera politique. Joseph Losé a été une des principales victimes du McCarthyisme, qu'il a dû quitter les États-Unis à la suite de sa convocation devant la Commission des activités anti-américaines. Et dans le livre de Michel Simon, il déclare que ça a été bénéfique pour lui, car il a travaillé... Je n'en suis pas sûr, car il a depuis travaillé en Europe et il a fait en Europe des films admirables qu'il n'aurait peut-être pas pu faire s'il était resté dans le système américain. C'est une simple supposition. Je voudrais donc lui poser une question très précise. Lorsqu'il a, avec ses camarades, été convoqué devant la commission McCarthy, il a, je crois, refusé de répondre. Or, dans le livre de Michel Simon, je trouve ceci. « Si, comme un seul homme, nous nous étions tous levés pour dire « Je suis communiste » et après, le Parti communiste n'est pas illégal et il compte 90 000 personnes, cela aurait arrêté la chasse aux sorcières. Je lui demande pourquoi il ne l'a pas fait.
Oui, non, je crois pas. Il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas été convoqué devant la commission. C'est là où je crois que Georges a fait une erreur historique mineure, mais par rapport à l'histoire de Losey majeure, c'est que Joseph Losey était en Italie quand ont eu lieu les audiences de la commission des activités anti-américaines. Donc il n'a pas été convoqué. Il faisait un film avec Paul Muni et il n'a pas témoigné.
Si vous aviez été convoqué, auriez-vous dit clairement et nettement « Le Parti communiste n'est pas interdit en Amérique, je déclare que je suis communiste et vous n'avez rien à me reprocher » Auriez-vous fait cette déclaration alors qu'aucun de vos camarades ne l'a faite ?
That's a very, very difficult question to answer because actually I was never quite in that position and the people who were in that position decided altogether, even people like Milestone, Louis Milestone, and Irving Pichel, who were never communists, that they could not answer any questions because the committee was illegal.
Oui, Joseph Losey dit que c'est une réponse difficile à donner parce qu'il n'a jamais été dans cette position de devoir répondre à cette question. Mais si les autres, comme en particulier Louis Milestone et Irving Pichel, qui n'avaient jamais été membres du Parti communiste, ne l'ont pas faite, cette réponse, n'ont pas dit « je n'étais pas communiste » ou « j'étais communiste » pour ceux qui l'étaient, c'est parce qu'ils s'étaient tous mis d'accord entre eux pour ne pas répondre à cette question parce que cette commission McCarthyiste était illégale. Je peux me permettre de faire une petite parenthèse pour expliquer un point légal de la Constitution des États-Unis. Il est interdit dans la Constitution des États-Unis de demander à un citoyen américain de répondre de son appartenance à un groupe politique. Ça fait partie oui. de la Constitution qu'on n'a pas à répondre en justice d'être syndiqué, d'être membre d'un parti politique. Donc, c'est un problème de droit, un problème légal. Ils ont refusé de répondre parce qu'on n'avait pas à leur poser la question.
I want to say that the one person out of the ten who were called first, who responded, was Bertolt Brecht. And the fact that he answered destroyed the committee for two years.
Je peux dire que la seule personne, des premières personnes qui a comparu devant cette commission, qui a répondu, c'est Bertolt Brecht. Et lui, il a répondu à la question parce qu'il n'était pas américain. Because he was not American. Parce qu'il n'était pas citoyen américain, il a répondu à cette question. Et que le seul fait qu'il ait répondu à cette question a détruit l'activité de cette commission pendant deux ans.
Michel Simon.
J'avais déjà publié un livre sur Kazan, l'entretien avec Kazan, et ça me tentait peut-être un peu de façon non pas perverse, mais c'est pas vraiment pervers du tout même. Mais je trouve que c'était passionnant d'avoir ces deux destinées complètement liées, en même temps opposées, puisque Kazan avait été à l'époque du McCarthyisme
de l'autre bord.
Il avait donné des noms, il avait dénoncé, et que Losey avait été une victime. Et je me suis toujours interrogé sur cette époque. qui pour moi est la plus riche du cinéma américain, d'une certaine façon, en tout cas la plus riche dans ses liens avec l'histoire, car ils étaient tous les deux nés la même année, ils avaient tous les deux eu des destinées parallèles, membres du Parti communiste, ils avaient travaillé au théâtre, ils avaient débuté à Hollywood à peu près à la même époque, ils avaient travaillé avec Tennessee Williams et Arthur Miller, ils avaient travaillé aussi avec Jeanne Moreau, ils avaient travaillé
ils
avec...
Ils avaient été amis.
À l'époque, ils n'ont pas amis, mais ils se connaissaient bien, enfin, disons, dans les années 30 et début des années 40. Non, c'était pas des amis du tout, c'était d'ailleurs des hommes complètement différents. Et en même temps, j'avais beaucoup d'affection pour les deux. C'était deux hommes qui, humainement, me fascinaient. C'était Kazan est toujours vivant, naturellement. Ils sont nés exactement en 1909. C'était vraiment des destinées tout à fait parallèles. Et je me demandais comment l'histoire avait pu finalement provoquer tous ces drames. Et je me rappelais de la phrase de Dalton Trumbo, qui avait été une victime du McCarthyisme lui-même, qui était un membre du Parti communiste, qui avait écrit un livre sur cette époque et qui avait appelé ça « Only victims », tous des victimes. Ceux qui ont dénoncé comme ceux qui ont été dénoncés. Évidemment, on pourra dire pas de la même façon. C'est plus dur d'avoir été Lozay que d'avoir été Kazan. Mais d'une certaine façon, à la fin des fins, tous les deux, finalement, ont vécu avec une sorte d'angoisse, finalement, je crois, l'un parce qu'il avait été justement poursuivi et l'autre parce qu'il avait donné, je crois que...
Oui, et Trumbo, on peut peut-être le dire en passant, qui avait été condamné à la clandestinité comme Lozay.
C'est ça.
Et comme beaucoup
finalement,
cinéastes.
On paye toujours pour ce que l'on fait, quel que soit le bord où l'on se trouve.
Londres, Royal Avenue, mardi 20 novembre 1984.
Hello.
Chez Patricia Lozay. Et le chien Tiger. Patricia Lozay, vous avez été la compagne de Joe Lozay pendant plus de 20 ans, je crois.
Oui.
Vous l'avez connue au moment du tournage d'Eva, est-ce vrai?
Oui, juste avant le tournage.
Que faisiez-vous sur le film? Vous travailliez également sur
le film? Je travaillais pour lui. Je suis venue... quand il faisait The Servant, qu'il a tourné en face.
Dans ce
royaume,
oui. Oui. Cette avenue où vous habitez maintenant. Ouais.
Oui, mais à ce moment-là, il vivait, et nous vivions tout près, Markham Street. Mm-hmm. Et après, depuis 1966, nous avons cette maison.
Est-ce que vous aviez l'impression, puisqu'on l'a beaucoup dit de Lozay, qu'il ne s'est jamais vraiment senti chez lui, en Angleterre, ni en France, ni ailleurs?
Je crois nulle part.
Qu'il a toujours été un exilé.
Oui, je crois que c'est très vrai. Mmh. Et il se sentait... même exilé aux États-Unis, quand il rentrait. Il était très impatient aussi, donc... il était facilement irrité, surtout par son propre pays. Qu'il avait en effet rejeté, mais c'était en même temps très superficiel et très profond, je crois, son attitude.
Vous êtes retournée aux États-Unis avec lui à certaines occasions?
Oui, beaucoup, mmh. Oui. Il est rentré faire des cours à Dartmouth College, où il avait étudié deux fois, en 70 et en 75. Mais tout était changé, il y avait même des filles.
Et lorsqu'il y était, donc, il ne s'est jamais senti très, très à l'aise. Parce qu'il avait des projets de...
Il aimait retourner. Oui. Mais ce qui est triste, c'est qu'il aurait voulu tourner encore un film aux États-Unis et il ne l'a pas fait. C'était une autre histoire de Dennis Potter. Et c'était... Tout devait se passer et le film était décidé. Et même Joe était parti chez des amis au Mexique. Et j'allais le rejoindre et tout d'un coup le film n'était plus.
Mais vous savez, je crois que tous les grands metteurs en scène
Monique Lange.
Ont eu beaucoup de mal à monter leur film. L'osait quand même. D'abord, il a eu une gloire tardive. Il a eu cet exil, il a vécu le macartisme, il a vécu une sorte de martyr glorieux puisqu'il a finalement fait 33 films. Mais en vérité, tous les projets qu'il voulait, il y avait toujours des problèmes. Il y a eu l'exil, il y a eu le macartisme, il y a eu la liste noire. Et puis, il y a eu toujours le fait qu'il tournait dans des pays qui n'étaient pas le sien. Et par exemple, un film qui a été très critiqué, que j'ai revu l'autre jour, comme L'assassinat de Trotsky, ça m'a déchiré de voir ce film tourner au Mexique et comme on sentait tout l'exil de Lozay. Finalement, il devait tout le temps s'adapter à des situations nouvelles, à des langues nouvelles, à des paysages nouveaux. Et il avait tout le temps son Amérique comme une plaie au flanc et il rêvait toujours de tourner un plan en Amérique. Et c'était ça, son explication totale.
Vous dites une chose très jolie dans un texte que vous avez écrit sur lui. Il parlait de l'Amérique, il disait « I hate America », comme on dit.
Je vous aime, oui, bien sûr. C'était tout le temps ça, ce rapport. Et d'ailleurs, je repensais là, ce matin à lui, que par exemple, on reprochait à Lozay que ses films coûtaient cher, ce qui n'était pas vrai, parce qu'il était d'une ponctualité extrême. Il tournait plus vite que tout le monde, était tout. Mais j'avais remarqué une chose, il tenait à avoir sa voiture, son chauffeur, enfin, à être hollywoodien. Et ce matin, en pensant à lui, je me disais que c'était parce que l'Amérique l'avait rejeté qu'il transportait son petit Hollywood avec lui. Et ça m'a chaviré.
Michel Simon, on parle beaucoup de la fascination qu'exerçait Lozay, notamment sur ses techniciens, sur ses équipes. D'ailleurs, lui-même disait toujours, lorsqu'il avait été content d'un tournage, s'il avait le sentiment que les gens étaient bien ensemble et bien autour de lui. Est-ce que vous avez ressenti cette aura de Lozay, comme ça, autour de lui?
Oui, enfin, moi je l'ai ressenti plus dans des rapports directs et privés, puisqu'on se voyait, je le voyais pas tellement sur les plateaux, où je l'ai vu tourner deux fois, mais j'ai pas passé beaucoup de temps à son travail. Mais moi, ce qui me frappait d'abord, c'était quelqu'un qui avait à la fois une très très grande sophistication, qui avait une extrême culture, une grande curiosité pour les choses, très ouverte, et en même temps, une très grande innocence, d'une certaine façon, dans le regard, quelque chose de très enfantin, de très pur. Et que même si, parfois, il y avait un côté snob chez Lozay, il ne faut pas le cacher, un côté comme ça, un peu sensible aux honneurs, peut-être, pas aux distinctions, mais au fait d'être reçu par certains grands de ce monde, ou certains grands de tous les milieux, en même temps, il y avait cette pureté et cette sorte de candeur enfantine qui me touchait profondément et qui fait que ces films, justement, gardent cette authenticité, cette pureté, à l'intérieur de... Il y a une sorte de noyau infracassable de pureté, je crois. Ça, c'est quelque chose qui me frappe énormément dans ces films. Et justement, ce côté baroque qui existait aussi chez lui, qui est le versant, disons, européen, qui est le versant sophistiqué. Et il y avait en même temps le côté brutal et le côté très, très américain, très pionnier, presque. Et c'est, je crois, l'alliance des deux qui fait que les Américains le prenaient pour un Européen et les Européens le prenaient pour un Américain. Qu'il était aussi bien capable de montrer la violence physique d'un coup de poing dans la figure que d'adapter Proust. Moi, j'ai des étudiants qui me disaient « Mais Lozay est anglais, puisque j'ai vu Accident. » D'autres auraient pu croire qu'il était français, puisqu'ils avaient vu Monsieur Klein. D'autres pouvaient croire qu'il était homosexuel, puisqu'il avait fait The Servant. Et c'est simplement, c'était un artiste. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était capable de littéralement absorber et faire sien, comme un grand comédien est capable de tout jouer, un grand metteur en scène est capable littéralement de comprendre l'Italie de la Renaissance, de comprendre la France de l'Occupation, sans avoir été un Italien de la Renaissance ou un homosexuel.
Portrait de Stanley Baker. Pour l'enquête de l'inspecteur Morgan, on me soumit une liste de trois noms, trois jeunes acteurs de premier rôle que les financiers pouvaient accepter. Stanley était l'un des trois, et c'était des trois de loin celui que je préférais, surtout que c'était un rôle différent de tous ceux qu'il avait joué jusque-là. Nos rapports furent très bons et le restèrent jusqu'à la fin de sa vie. Il interpréta 4 ou 5 de mes films, et sans prétention, je peux dire que ce sont ses meilleurs films. quand il était certain que vous n'alliez pas profiter de lui pour le ridiculiser ou lui faire du tort en tant qu'acteur ou que personne, alors il était prêt à donner tout ce que recelait sa personnalité et son expérience, et c'était beaucoup. Je me rappelle qu'il était très fier d'être viril et très séducteur. Il était sportif, très robuste. Il avait la réputation d'être un tombeur. Je ne voudrais pas peiner ici les membres de sa famille, mais il avait de grands appétits. Il mettait de l'excès en tout, ce qui me plaisait. Je me rappelle dans Eva, au début du tournage, nous descendions un jour le Grand Canal en motoscafo, nous dirigeant vers un de nos lieux de travail. À l'arrière se trouvait Jeanne Moreau, entre Stanley et moi. Il dit tout d'un coup à Moreau, « Fais attention avec ce type. C'est la troisième fois que je travaille avec lui. Il réussit à tirer de vous des choses dont vous ne soupçonniez pas la présence. » Et il ajouta, « La nuit dernière, j'ai fait un rêve homosexuel. » Ce qui était pour lui la chose la plus inimaginable. En tout cas, il m'avait accordé sa confiance, que je n'ai pas trahi. Et nous avons eu de très bonnes relations de travail. Sa mort, à l'âge de 45 ans, est une grande tragédie. Le cancer l'a emporté au sommet de sa carrière, je crois. Pensez à l'enquête de l'inspecteur Morgan, à Eva, au criminel, et à Accident. C'est une large gamme de personnages.
Joseph Losey avait ses acteurs, ceux qu'il aimait plus que les autres, et il ne s'en cachait pas, il en parlait volontiers. Il y a, je crois, Dirk Bogarde, dont il a, qui il a donné de très beaux rôles. Il y a vous, Jeanne Moreau, il y a peut-être Alain Delon, sans doute Stanley Baker aussi. Et quand je dis qu'il ne se cachait pas d'aimer ses acteurs, c'était que réellement, il avait avec eux un rapport très privilégié. En tout cas, c'est ce qu'il a dit à plusieurs reprises. Est-ce que vous, vous ressentiez
ça? L'acteur avec lequel il a été le plus profondément lié au début, ça a été Stanley Baker. C'est un homme dont on parle peu, qui est mort il y a plusieurs années, qui a beaucoup, beaucoup compté pour Joe. Et c'est vrai que ses relations avec Dirk Bogarde étaient très étroites. J'ai connu Joe Losey à travers justement The Criminals, le film qu'il avait fait avec Stanley Baker. Et à cette époque-là, j'étais en discussion avec des producteurs français qui avaient acheté les droits de Eva, de James Hadley Chase. Et par contrat, j'avais droit au choix du metteur en scène. Et j'avais demandé Jean-Luc Godard. J'étais sous l'éblouissement d'À bout de souffle. À la suite de tractations très compliquées, d'abandon, de trahison, entre guillemets, de Jean-Luc Godard, on s'est trouvé sans metteur en scène. Entre-temps, moi, j'avais vu une projection des criminels et j'ai dit, sans avoir jamais vu en personne Joseph Losey, je pense que cet homme pourrait faire Eva. À cette époque-là, je louais pour les vacances un château désaffecté dans un piteux état en Bretagne, le château du Bilot. Et Joseph Losey a été contacté. Et un soir, il est arrivé dans ce château en Bretagne. Il arrive qu'il pleuve et il pleuvait. J'écoutais beaucoup Billy Hallyday à l'époque. Et nous avons passé 3 jours ensemble. J'avais l'impression de quelqu'un qui était un exilé. D'ailleurs, c'est très frappant chez les grands metteurs en scène. Plus les étrangers que les Français, d'ailleurs. Quand je repense en vous parlant à Orson Welles ou à Buñuel ou à Losey ou à Antonioni, c'était des exilés. François n'était pas exilé, François Truffaut. François est un Français, il était bien sur cette terre française. Et donc, nous avons parlé de beaucoup de choses, mais il m'a surtout parlé de lui. Après, il m'a posé des questions sur moi. Et notre accord s'est fait immédiatement. Je trouve que Joe a la quintessence de ce qu'ont tous les artistes, c'est-à-dire d'une façon complètement avouée, cette bisexualité que nous avons tous. Alors, bien sûr, quand on dit bisexualité, maintenant, on veut dire... les gens croient que ça veut dire qu'on est capable de faire l'amour avec un homme ou une femme, avec autant d'aisance. Alors, peut-être qu'il faut employer un autre mot, il faut dire le côté androgyne. Et cette exacerbation contre les créateurs qui fait qu'ils peuvent ressentir des émotions féminines ou des émotions masculines, cette dualité, cette ambiguïté. Et si vous pensez aux images des films de Joe, moi, chaque fois que je passe devant un miroir, je pense au film de Lozay. On voit beaucoup de plans de miroir dans les films.
C'est très vrai, oui. Mais il y a toujours aussi une ambiguïté,
les films de Lozay montrent les miroirs d'une façon tout à fait particulière, et ça me rappelle un truc qui m'est arrivé quand j'étais enfant. Et là, le miroir est important. Un jour, mon père, qui était très autoritaire, comme tous les pères, ça se faisait, me dit quelque chose et me tourne le dos, me dit quelque chose de très désagréable et me menace d'une punition corporelle. Et je lui tire la langue. Mais il y avait un miroir et il l'a vu. Donc, je l'ai eu, la fessée. Et les miroirs, chez Lozay, ils servent à montrer ce qu'on ne verrait pas sans ça. C'est pas simplement pour montrer une image double.
Ce qu'il a envie de dire, quand même.
Mais ça montre quelque chose qu'on ne saurait pas autrement.
Quels étaient vos rapports dans le travail avec lui? Comment est-ce qu'il dirigeait les acteurs?
Oh, c'était très doux. C'était très doux. On savait tout l'un de l'autre. C'était formidable.
Très tendre.
Oui, bah, c'était très tendre et très exalté, très enthousiaste, parce qu'on était du même monde, on parlait sans se parler. Et c'est ça. Mais c'est ça qu'on a avec tous les grands metteurs en scène et avec tous les metteurs en scène avec lesquels on s'entend. Il y avait une vraie jubilation.
Quel est le film que vous avez préféré faire avec lui?
J'ai pas de préférence, moi. Je n'ai pas de préférence. J'étais heureuse d'être avec lui. Je regrette qu'il ne soit plus là.
Vous l'avez revu récemment?
Je l'ai revu, quelques mois avant, quelques semaines avant son hospitalisation.
À Londres?
Oui.
Où il était reparti après la truite?
C'est ça, oui.
Un petit peu par dégoût, peut-être, non?
C'était un homme, il est mort très déçu, très désenchanté, c'est ce que je regrette.
Oui, il y a un côté, Lozay, l'homme privé de travail, dont il a dû souffrir beaucoup.
Et non seulement l'homme privé de travail, mais l'homme dont les projets qu'il avait portés en lui depuis si longtemps étaient réalisés par d'autres, que ce soit au-dessous du volcan ou que ce soit le Proust.
Can you talk a little bit about the Proust project?
Well, I can only say about the Proust project that's been going on since 1971.
Ça dure depuis 1971.
Harold Pinter completed his script in 1972.
Le scénario de Harold Pinter est terminé en 72.
I know of no artist, whether he be actor or cameraman or designer or anybody in the creative fields who's read the script who doesn't agree that it is perhaps the best scenario ever written, and the most difficult.
Tout le monde qui l'a lu, les artistes, les cinéastes, etc., ont tous trouvé que c'est un des plus beaux scénarios, le plus beau scénario qu'ils ont jamais lu, mais aussi peut-être le plus difficile.
But that doesn't necessarily bring money.
Mais ça ne rapporte pas forcément de l'argent.
And because of the various delays, the cost of the film has nearly doubled.
À cause du temps qu'on a perdu depuis 71, le prix du film a doublé déjà.
However, I think the experience of working in France will help, and I have more hope that the film will actually be realized now than I've ever had, and I believe it will be settled in the next 10 days.
Et maintenant, je suis plus convaincu que jamais que le projet va se faire. En tout cas, je pense le savoir en les prochains 10 jours, les 10 jours à venir, si ça va se faire ou pas.
Ceci, c'était en 1976, à une conférence de presse à Cannes, pour la sortie de Monsieur Klein. 3 ans après, 1979, dans l'émission Le Masque et la Plume de François-Régis Bastide, après la sortie de Don Juan, Lozay parle encore, toujours, du Proust.
I believe that it can still be done if Don Giovanni is successful.
Je crois que ce film peut encore être fait si Don Giovanni est un succès commercial.
Vous en avez envie vous-même?
Oh, oui.
Il faut dire qu'il y a un scénario énorme. Génial,
énorme.
Publié déjà.
Autrement dit, maintenant, si on vous disait, ça y est, vous pouvez le faire, allez-y, il y a les moyens financiers, etc., vous pouvez tourner, est-ce que vous préféreriez aller vers cette expérience, qui n'est pas non plus très facile, plutôt que de faire un autre film d'opéra
There's no question, but if I had the total choice, I would do Proust. But I want to make another opera film.
Do you have another project also?
I have also another project in Chicago, which would be my first film in 29 years in the United States. But...
Non, si je devais choisir entre Proust et l'opéra, bien sûr, je ferais Proust. Mais j'ai un troisième projet qui est un film que je dois tourner à Chicago et qui sera le premier film que je réaliserai aux États-Unis en 29 ans.
But after the reception in New York, I was so, I mean, the critical reception and the general newspaper reception, I was so depressed that I wasn't at all sure I wanted to make a film again in the United States.
Mais après l'accueil critique, je spécifie critique, qui a été fait au film à New York, j'étais tellement déprimé que je n'étais plus sûr du tout d'avoir envie de retourner faire un film dans mon pays.
Michel Simon, il y a un trait dans la carrière de Lozé qui me paraît très important et à certains égards assez symbolique au fond de la situation de beaucoup de metteurs en scène. Et vous lui donnez une assez large place dans votre ouvrage d'ailleurs, dans le livre de Lozé. Ce sont tous les projets non aboutis. Vous appelez ça sa filmographie imaginaire. Et c'est sidérant de voir le nombre de films, de projets que Lozé a bercés, écrits, parfois menés même très très loin et n'a pas pu réaliser. Est-ce que vous pensez qu'il est l'un des metteurs en scène à qui cela est arrivé le plus souvent, ou est-ce qu'il est au contraire, comme je disais, assez significatif, cette situation?
Je crois qu'il y a deux types de metteurs en scène. Il y a des metteurs en scène qui écrivent eux-mêmes leurs scénarios et qui sont dans une position, disons, de relatif pouvoir, dont je parlais. Et à ce moment-là, ils n'ont pas une multitude de projets qui n'ont pas abouti, pour la bonne raison que écrire un scénario soi-même, ça prend un temps considérable. Donc entre le moment où ils tournent leur propre film et les projets, bon, alors des metteurs en scène comme Francesco Rosi, comme Fellini, comme Billy Wilder, comme Joseph Mankiewicz, bon, qui sont des scénaristes, en même temps, on peut dire qu'il y a probablement dans leur vie 5 ou 10 projets écrits qui n'ont pas été tournés. Dans le cas de Lozé, qui n'écrivait jamais une ligne, qui était un peu comme une éponge, qui attendait qu'on lui apporte les choses, et ensuite les absorbait, et les redigérait, et les transformait.
Mais qui travaillait tout de même avec ses scénaristes,
oui,
avec
oui,
Pinter,
comme tous les grands cinéastes.
D'assez près. Oui, il regardait par-dessus leur épaule, comme il
dit. Non, mais comme tout vrai cinéaste, de toute façon, participe au scénario. Mais je veux dire qu'il y a ceux qui sont les scénaristes eux-mêmes, et puis ceux qui font venir un scénario, retravaillent tous les jours, etc., ou toutes les semaines, suivent le travail du scénariste. C'était le cas de Lozé. Et dans ce cas-là, évidemment, on leur propose des projets. Alors, les projets que j'ai cités, qui sont au nombre de plus de 60, et encore, c'est une partie, parce qu'il y en avait peut-être 100 ou 200, on n'a pas tout mis. C'était évidemment, certains n'étaient pas plus que 15 jours pendant lesquels on a discuté avec un producteur, la possibilité d'adapter Nostromo de Conrad, où on a rencontré le scénariste, on a discuté avec lui, puis finalement ça n'a pas pu se faire, etc. Enfin, c'était intéressant sur les goûts aussi de Lozé. Mais je crois que c'est vrai que c'est une carrière, disons qu'il y a un certain nombre de cinéastes comme Lozé. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup autant que lui, à cause justement de cette vie terriblement, chaotique qu'il a menée d'un point de vue professionnel.
À la recherche du temps perdu. Vers 1967, le rendez-vous. Ce n'était pas un de mes projets. Un producteur me le proposa. J'y ai pensé très sérieusement car j'estimais que James Salter était un écrivain remarquable et que Dirk Bogarde pouvait interpréter le rôle. Le film fut finalement réalisé par Sidney Lumet. L'assassinat de Ben Barka. C'était un projet sérieux, mais je ne pus me mettre d'accord avec le producteur. Le scénario était de Ben Bersman. Il fut tourné par Yves Boisset. Dix heures et demie du soir en été, et le marin de Gibraltar. J'avais une passion pour Duras. Elle me donna ses projets divers. Le marin de Gibraltar devait être financé par Wolfgang Reinhardt. Je voulais le réaliser avec Jeanne Moreau. Quant à 10h30 du soir en été, il fut tourné par Jules Dassin. 1963. Les inconnus dans la maison, d'après Simenon. Ce fut un avortement. Je suis allé à Cabourg, j'ai loué une maison et travaillé tout l'été avec Tabori. Finalement, il m'a montré un scénario désastreux. On achève bien les chevaux. J'en ai eu la propriété pendant une courte période et je voulais vraiment le tourner. Mais je n'arrivais pas à monter l'affaire car c'était l'époque de mes rapports complexes avec les Burton. Je voulais qu'un jeune metteur en scène le réalise à ma place, mais au dernier moment, il ne s'est pas senti de taille.
Les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas aller monter, c'était pas toujours des raisons financières. Il s'est fait aussi voler quelques sujets, ça c'est d'ailleurs incroyable, mais...
Oui, il s'est fait voler des sujets.
Parce qu'il parlait trop.
Il parlait trop, et puis... non, je crois que c'était souvent l'incompréhension. Et puis, vous savez, Lozay est quelqu'un qui n'a jamais eu des succès financiers extraordinaires. Alors, quand vous n'avez jamais eu ce qu'on appelle en anglais un blockbuster, c'est-à-dire quelque chose qui défonce tout, qui suffit parfois à vous assurer une relative tranquillité pour 10 ans, parce que les producteurs sont des joueurs, enfin les bons producteurs, les vrais producteurs sont des joueurs, donc ils jouent à la roulette. Alors, ils prennent un homme qui, une fois, a gagné sur le 36 ou sur le 23. Mais s'ils produisent quelqu'un qui n'a jamais fait 10 fois la mise, ben, ils hésitent, parce qu'évidemment, quelqu'un, par exemple, comme... évidemment, bon, le cas de Spielberg, c'est quelqu'un, à chaque fois, il remporte la mise. Bon, donc, dans ce cas-là, il trouve des producteurs tout de suite. Mais il y a même des gens comme Robert Altman, par exemple, qui ont fait MASH. Alors, il a fait MASH, ça a rapporté 20 fois ce que ça a coûté, donc ça les encourage à tenter d'autres films. Tandis que dans le cas de Lozay, il a fait des films qui ont eu du succès. Il a fait des films qui ont rapporté plus ou moins ce qu'ils ont coûté, ou qui ont gagné même, qui ont fait des bénéfices, mais pas dans une marge énorme. Donc, il fallait vraiment qu'il ait des producteurs qui soient intelligents, cultivés, qui aient envie de produire un film de qualité, qui aient envie peut-être de prestige, qui aient envie peut-être d'investir de l'argent parce qu'ils en avaient trop gagné par ailleurs, et que c'est une façon de...
Bon. Et qui prennent des risques.
Et qui prennent des risques. Dans ce cas-là, c'est pas si facile que ça. Et évidemment, plus... Quand le cinéma anglais était relativement prospère dans les années 60... La carrière de Lozay en Angleterre a prospéré. C'est-à-dire que le Londres swinging et le Londres colonisé par les Américains dans les années 60 où l'Amérique investissait beaucoup d'argent, ça a permis à Lozay de travailler en Angleterre et même de faire des films de production internationale comme Cérémonie secrète ou Modesty Blaze ou Boom, qui étaient des productions vraiment très importantes. Dès le moment où, justement après The Go-Between, après Le Messager, où le cinéma anglais a commencé à péricliter. Déjà, Le Messager est un film fait plus ou moins en coopérative, avec les comédiens qui ont mis leur argent en participation, etc. C'est déjà le signe que ça n'allait plus très bien. À ce moment-là, Lozay a eu beaucoup plus de difficultés pour tourner, et c'est à ce moment-là qu'il est venu en France, où la France, elle, continuait à produire, et où le prestige de Lozay était tout de même était grand. Bien quoi que j'ai pu dire, c'est vrai que c'était un homme tout de même considéré comme un très grand cinéaste, et que c'est la France tout de même qui a été avec l'Angleterre, mais avant l'Angleterre, mais avec l'Angleterre, le pays où Lozay avait certainement la plus grande réputation, également l'Italie.
À Monsieur Henri Alcan, Grenade, le 11 juillet 1969. Joseph Lozay et moi aimerions savoir si vous seriez intéressé pour éclairer la suite de notre production actuelle. Deux hommes en fuite. Stop. Reste 8 semaines de tournage à Grenade et Malaga. Stop. Si vous êtes libre et pouvez nous rejoindre lundi 14 juillet ou aussitôt après, envoyez SVP message au Loose Hotel, Grenade, Espagne, et je demanderai à mon adjoint de Londres de régler les détails avec vous. Bien à vous. John Conn, le producteur.
Henri Alcan, vous avez fait plusieurs films avec Joseph Lozay, le premier en 1951, donc très peu de temps après son arrivée en Europe. Il s'agissait d'Embarquement à minuit. Et puis vous avez tourné également Deux hommes en fuite et le tout dernier, en tout cas le tout dernier tourné en France, La Truite. Alors peut-être on pourrait commencer chronologiquement. Comment a-t-il pris contact avec vous et que connaissait-il de votre travail lorsque vous vous êtes rencontrés?
Je crois qu'en 1951, ce sont des amis qui ont dû parler à son scénariste, qui était un scénariste très connu, qui est Ben Barzman. Et c'est par l'intermédiaire de Ben Barzman que nous nous sommes vus un jour dans le quartier de l'Observatoire. Un grand jour d'été, plein de soleil, on s'est promené sur l'avenue de l'Observatoire. Et Lozet partait à Rome, puis ensuite à Pise et à Tyrrhenia où il y avait des studios. Et il m'avait demandé si je pouvais faire son film, qui d'ailleurs a été le dernier film, je crois, de Paul Muni. Il avait donc un très grand acteur avec lui et un très beau sujet. Le sujet était pris d'après un roman ou une nouvelle, disons, d'un écrivain qui s'appelait Calef. Le roman s'appelait La bouteille de lait. Et c'est appelé Embarquement à minuit. Et je crois après a changé d'ailleurs trois fois de titre. Alors l'intérêt pour moi, naturellement, c'était de tourner avec ce grand metteur en scène qui était Lozet. Il n'avait pas encore, je crois, autant de prestige que le prestige qu'il a eu par la suite. Mais j'ai tout de suite été passionné par son travail parce que c'était un metteur en scène non seulement consciencieux, mais minutieux dans la recherche des extérieurs, des intérieurs naturels, du studio. Et il travaillait avec une très grande rigueur. Il ne pouvait pas admettre, il me semblait, la facilité, la négligence. Sa mise en scène reposait entièrement, je crois, sur une conception très stricte de la mise en image de sa pensée intérieure.
Pensée très visuelle.
Je crois que c'était un homme très visuel. Je me souviens parfaitement du soin avec lequel on parcourait les rues et le port de Livourne en Italie. Vous savez, c'était peu de temps après la guerre. Il y avait beaucoup de rues détruites, démolitions. Et j'étais tout étonné, surpris en même temps du fait que Lozet prenait mille précautions pour ne pas attraper de maladie. Et il avait un assistant qui pulvérisait du DDT sur toutes les ruines que nous franchissions. Ça, c'était pour moi une grande surprise. Alors, quand les ruines étaient passées au DDT, on pouvait les patauger, les franchir, monter des escaliers vraiment en plein d'éboulis, entrer dans des immeubles souvent très sales, à abandonner, et il me désignait les lieux qu'il aurait aimé voir comme site pour son action. Et finalement, devant certaines difficultés, il a opté pour une partie dans des intérieurs naturels, une partie en studio.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il préférait le travail en studio au travail en extérieur, ou bien est-ce qu'il s'adaptait aussi bien à l'un qu'à l'autre?
Moi, à cette époque, j'ai eu l'impression qu'il préférait les extérieurs et les intérieurs vrais.
Décors naturels, oui.
Les décors naturels, de préférence au studio. Mais il faut dire que on sortait de la période du néo-réalisme italien, qui a influencé beaucoup l'Europe et peut-être aussi le monde entier, dans une certaine forme de cinéma où on n'allait pas au studio. Néanmoins, Lozet admettait que certaines scènes, pour certaines scènes, on soit dans l'impossibilité de tourner dans la nature. Alors on reconstruisait en studio. C'est à cette époque, c'est dès cette époque, que Lozet m'avait dit « Je n'aime pas la nuit américaine ». La nuit américaine, vous savez, c'est un procédé, finalement, qui fait qu'on transpose le solaire en lunaire. Et ce solaire transposé en lunaire, au fond, c'est un trucage qui consiste à mettre des filtres sur l'appareil de prise de vue et à faire une certaine gymnastique technique pour laisser croire que la lune sur l'écran a été en vérité le soleil.
Alors justement, Henri Alcan, c'est très intéressant ce que vous signalez là, car effectivement, Lozé a déclaré un jour qu'il détestait la nuit américaine et qu'il ne voulait plus en faire. Et pourtant, je crois qu'avec vous, cela lui est encore arrivé. C'était le deuxième film que vous avez fait avec lui. C'était Deux hommes en fuite.
Alors, Deux hommes en fuite.
Figures in the Landscape, c'était le titre anglais, et c'était en 1970. Et c'est un film qui, je termine simplement pour présenter le film, avait beaucoup de scènes diurnes et d'autres scènes nocturnes. Vous en parlez très longuement dans votre ouvrage sur la lumière, vous le citez même comme exemple. Alors, comment avez-vous fait accepter cela?
Oui, je le cite comme exemple parce que c'est une des difficultés, finalement, de notre métier, de trouver un compromis entre les exigences du scénario, donc du metteur en scène, et les exigences économiques du cinéma, qui font que lorsqu'on tourne une nuit américaine, c'est relativement peu coûteux, et lorsqu'on le même site est traité en nuit réelle, ça devient quelque chose de très très coûteux pour des budgets moyens. Lozé a posé le problème. On se trouvait devant un vaste torrent.
Vous avez tourné en Espagne, Deux hommes en fuite, je le rappelle.
Et il m'a posé la question, voilà, je voudrais que les personnages viennent là-bas de la forêt, très loin, qu'ils soient tout petits, et puis ils vont grossir le long de la rive, ils vont passer sous les arbres. Quand ils sont dans l'axe de la caméra, ils vont traverser la rivière à mi-corps, parce que ça n'est pas profond. Ils tiendront leurs armes au-dessus de leur tête, puis ils vont grossir sur la caméra. Ils me racontent le scénario, et avec toute l'équipe autour de nous, qui attend les décisions. Il me dit, voilà, c'est le lieu choisi par mon décorateur et par moi. Ensuite, quand on arrivera en gros plan, ben vous aurez il faudra bien lire les visages, entendre les répliques, et puis on va continuer encore. La caméra pivotera sur elle-même. On va voir les acteurs de dos. Ils vont aborder la rive, puis ils vont aller assassiner un garde qui se trouve là-bas dans la petite maison. Et je dis à Lozé, mais ça me semble impossible. Le champ embrassé est si grand qu'il n'y a pas de possibilité d'éclairage, en tout cas avec les moyens qu'on m'a donnés dans le film. Il me dit, mais qu'à cela ne tienne, dites-moi ce qu'il faut. Alors ça se résout donc par des moyens financiers supplémentaires. Comme il ne voulait pas que ce soit en nuit américaine, il a fallu une dizaine de jours pour construire valablement, si vous voulez, des îlots sur lesquels il y avait des arbres qui camouflaient des projecteurs, etc. etc. On a un peu réduit le champ pour que ça puisse contenir dans l'appareil et que ça soit possible. Mais imaginez une seconde les difficultés de discussion avec la direction de production quand au retour à notre hôtel à Malaga, tout le monde est devant une table, je crayonne un petit peu le plan de la scène en imaginant ce qu'il faut comme matériel électrique. Et en obligeant, en somme, en contraignant le producteur à faire venir des camions de matériel supplémentaire et des hommes, naturellement, pour manier ces projecteurs. C'est ça le problème.
Mais il n'y a pas eu de nuit américaine du tout sur ce film ?
Absolument pas.
Jamais ?
Jamais de nuit américaine. Tout a été en vraie nuit.
Juliana, Malaga, le 5 septembre 1969. Cher Henri, grâce à Dieu, vous étiez libre pour venir travailler sur le film et nous avons pu l'achever ensemble. J'espère qu'il y aura d'autres films, bientôt, sans problème de quota pour les techniciens, sur lesquels nous pourrons travailler et discuter ensemble dès le début. Je sais que cela n'a pas été un film très facile pour aucun d'entre nous, mais j'attends avec impatience de vous retrouver dans des conditions plus libres et plus heureuses. Mille fois merci. Très affectueusement, Joseph Lozé.
Le grand talent de Joseph Lozé fut de s'entourer tout au long de sa carrière des meilleurs techniciens. Presque tous devinrent ses amis. Ainsi, pour la lumière, Henri Alcan, on vient de l'entendre, et puis Jerry Fisher, qui fit pour lui Accident, Le Messager, Monsieur Klein, Don Juan,
Et pour les décors, Alexandre Troner. Troner, le grand artisan de Hôtel du Nord, de Quai des Brumes, du Jour se lève, l'ami de Carnet et des frères Prévert. Troner qui fit lui 4 films pour Joseph Losey, Monsieur Klein, Don Giovanni aussi, La Truite et Les Routes du Sud, tournées dans sa propre maison en Normandie.
Et lui est venu souvent en Normandie. Et le dernier Noël de Jacques Prévert, quand il était en vivant, ça, on a passé ensemble. Alors c'était assez curieux parce que Jacques parlait pas anglais, et lui parle français, mais comme Jacques parlait très vite, etc., il avait des difficultés quand même. Mais il s'entendait très bien. Ça veut dire qu'il y a quand même une entente qui est en dehors de le langage. Ça veut dire déjà sur l'intonation, prendre un sujet, comment est-ce qu'on répond, etc., ça se développe peut-être tout de suite. Et on aurait bien aimé reprendre un projet qu'on avait et on discutait là-dessus, mais évidemment, comme beaucoup de projets, ça n'a pas abouti pour des différentes raisons.
De quoi s'agissait-il ?
C'est un film qu'on a préparé avec Jacques et Pierre Prévert et moi, qu'on devait réaliser ensemble, c'était après la guerre. Et moi, je considère toujours que c'est un des grands sujets que nous avons touché et qu'on regrette qu'on ne l'a pas fait. Alors, comme on est arrivé à l'impossibilité de faire nous-mêmes, à un moment donné, on a pensé un projet semblable, Losey pourrait le faire.
Mmh. Et le sujet ?
Non, le sujet, c'est, écoutez, j'aime pas beaucoup parler de ça parce que c'est une chose, c'est un sujet qui est écrit, qui est complètement dessiné, ça dit les personnages sont dessinés, c'est Hécatombe, c'est l'histoire d'un dictateur. C'était un des sujets qui sont dans le tiroir.
Vous l'avez rencontré à quelle époque ?
Écoutez, je l'ai rencontré quand il est venu à Paris, ça veut dire en quittant l'Angleterre, je l'ai rencontré dans le midi à la Colombe d'Or, où il venait assez régulièrement. À un moment donné, on a parlé, il m'a dit, écoutez, j'ai une équipe avec qui j'ai l'habitude de travailler, mais si je viens ici, si j'ai des difficultés pour amener mes gens, j'aimerais bien que vous le fassiez. Mmh. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à M. Klein, qui était le premier film qu'il a réalisé en France.
Journal. Vous avez dû le laisser tomber.
Non. Monsieur Klein, tourné à Paris en 1976 avec Alain Delon.
Vous avez raison, c'est bien mon nom et mon adresse.
C'est le facteur qui l'aura posé devant votre porte.
Et au revoir, monsieur. Bon voyage et bonne chance.
Bonne chance à vous, monsieur Klein.
Alors, sur les décors de M. Klein, par exemple, quel est celui sur lequel vous avez eu le plus de difficultés
Écoutez, il faut montrer un homme qui vit pendant l'occupation, vous comprenez, qui est un petit trafiquant des objets d'art. Où est-ce qu'il vivra ? Il vivra à Saint-Germain-des-Prés. D'ailleurs, on l'a logé pas loin d'ici, rue du Bac. Il a un atelier où les gens viennent. Il est en bordure de Saint-Germain-des-Prés, il est quand même un peu vers les quartiers plus chics. Alors, il est en bordure, c'est pour ça qu'on a défini que ce sera par ici.
Est-ce que pendant la préparation des décors, Losey venait beaucoup sur le décor ou est-ce qu'il attendait que tout soit en place ?
Ah non, mais il est mêlé, vous savez, même par l'inquiétude, évidemment, il a travaillé. En plus, c'est un homme qui était extrêmement précis sur les choses qu'il voulait. Vous savez, Losey, c'est le metteur en scène qui tournait le plus vite que je connaissais entre tous les metteurs en scène. C'est un homme qui avait une préparation très minutieuse. Et avant de commencer le travail, on avait une interview. Et il a donné même quelques pages très précises, de corps par de corps, quelles sont les intentions qu'il veut faire et qu'est-ce qui doit venir sur l'écran. Alors, c'est extrêmement agréable quand on travaille dans les chemins bien définis, vous comprenez, on a moins d'inquiétude, il n'y a qu'à développer en certaine façon. C'est le metteur en scène avec qui j'avais le plus de facilité de comptage. Il ne faut pas oublier qu'un spectacle comme Don Giovanni, qui est un spectacle de 3h30, vous comprenez, était tourné en 7 semaines.
Ce qui est un record.
Non, c'est parce que tout était là. On n'avait pas l'impression de se dépêcher. Il n'y avait pas personne derrière nous en disant, écoutez, il faut encore faire ce plan, il faut encore faire ce plan. Non, ça venait tout à fait normalement parce que c'était bien acheminé, c'était mis en programme comme il fallait.
En 1979, Joseph Losey réalise donc le Don Giovanni. Première expérience de mise en scène lyrique, avec l'appui de Rolf Liebermann et de Franz Salieri, une équipe prestigieuse et une distribution qui ne l'est pas moins, Laurine Mazel et l'Orchestre de Paris, Ruggero Raimondi, Kiri Tekanawa, Teresa Berganza, José Van Damme.
Fearful, very frightened, very not sure that I could do this. It was the idea of the combination of Don Giovanni avec Palladio which finally convinced me.
J'avais très peur, je ne savais pas si je pouvais le faire, mais c'est finalement l'idée de la combinaison de Palladio et de Don Giovanni qui m'a convaincu.
Qui a eu l'idée de Palladio? C'est Liebermann.
Rolf Liebermann, it's an idea absolutely génial.
Oui. C'est une idée de Rolf Liebermann que je trouve géniale.
Qui change tout, sûrement, d'avoir fait ça. J'ai lu que vous n'étiez pas un fanatique de l'opéra. Vous avez été peu souvent dans votre vie à l'opéra. Vous n'aviez même jamais vu d'opéra de Mozart à la scène, à l'exception de Così fan tutte à Salzbourg, c'est vrai?
Yes.
You are not a fanatic.
I'm not a fanatic of anything, excepting opposition to the way films are sold, usually.
Je ne suis un fanatique de rien, sauf que je m'oppose à la façon dont on vend les films d'habitude.
Oui.
And show them.
Jean Charançon.
And the lack of standards in showing.
Et la façon de les montrer aussi, et l'absence de critères pour les montrer.
Which I think in this case have largely been overcome. I think Gaumont has done an exceptional job.
Mais je pense que dans ce cas particulier, ces obstacles ont été surmontés car Gaumont a fait un très beau travail.
Oui. Jean Charançon.
Je me permets de vous rappeler qu'au cours d'un entretien, vous avez déclaré « Je n'ai que des connaissances très limitées dans le domaine lyrique. Quelles sont les parts respectives de vous-même, de Rolf Liebermann et de Salieri dans ce travail d'une extraordinaire complexité et qui demande tout de même des connaissances musicales extrêmement approfondies ?»
Well, Rolf Liebermann had the basic idea and had the wish to push me into it.
Bon, d'abord, Liebermann eut l'idée de départ et aussi la volonté de me pousser à le faire.
And he has always been there as a kind of stop and go signal, a kind of red and green.
Il a toujours été près de moi comme un signal de feu rouge et de feu vert.
He sometimes said, "You cannot do this," or "Yes, you can do that." I didn't always pay attention. I always paid attention, but I didn't always do what he said.
Il me disait toujours, vous pouvez faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Je faisais toujours attention à ce qu'il me disait, mais je ne faisais pas toujours ce qu'il me disait de faire.
Par exemple, do you remember one example of little detail?
I'm not sure because there is so much to remember, but I can say that in the beginning, he was terribly concerned about the synchronization with the soundtrack of the lips.
Par exemple, au début, il était très préoccupé par le problème de la synchronisation entre le mouvement des lèvres et la musique.
We began with a television camera in connection with our own camera, which was photographing the lips.
Nous avons d'abord commencé par avoir une caméra de télévision synchronisée avec notre caméra qui filmait les lèvres.
Oh là 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 là.
Also with three people watching the synchronization.
Et avec trois personnes qui surveillaient la synchronisation.
So in my moving shots, where the camera had a great deal of movement, which was largely or entirely dictated by the music, we had a whole army following the camera.
Et dans mes mouvements d'appareil, il y en avait beaucoup, de très longs mouvements d'appareil, quand la caméra suivait les chanteurs, mouvements qui étaient dictés par la musique, on avait toute une armée qui suivait la caméra.
After the first day, I threw the television out, and everybody excepting Janine. race for the lip sync.
Yes. Et après une journée, j'ai renvoyé tout le monde. Je n'avais plus personne qui suivait la caméra, sauf Jeanine Rice, qui était la claveciniste.
Lagomont et Daniel Toscan-Duplantier avaient souhaité ce film et l'ont soutenu jusqu'au bout. Mais la gageure était grande. Un témoignage de Pierre Saint-Blanca, directeur de production, chargé de gérer le budget du film.
Avec M. Joseph Losey, il est évident que quelquefois, les difficultés sont plus grandes, mais au moins, il y a une chose qui est très claire. M. Losey était un homme d'un grand professionnalisme et qui avait le respect de la profession de chacun, aussi bien du plus petit que du plus grand. Et ça, pour moi, ça a été une chose, une découverte d'abord, et une chose extrêmement importante. De ce jour-là, je me suis dit, Pierre, bon, ben, Losey, je ferai tout pour lui. Sans trahir du tout les gens qui finançaient ce film, pas du tout, mais je pense qu'il fallait lui donner la possibilité de faire ce qu'il a fait. Et évidemment, Losey connaît tellement bien son métier qu'il a drivé toute une équipe derrière lui d'une façon extraordinaire. C'était la première fois qu'il travaillait avec des gens de l'opéra, du chant, et qu'il était prêt pratiquement avant eux. C'est-à-dire que quand il a commencé à préparer Don Giovanni, il connaissait Don Giovanni par cœur, aussi bien la musique que les partitions, que les origines, que tous les gens qu'il avait pu interpréter bien avant les gens qui avaient été choisis par M. Lieberman, en accord avec lui. Et quand les acteurs sont arrivés pour tourner, c'est-à-dire très peu de temps avant le tournage, il leur a expliqué ce qu'ils devaient faire, et personne n'a rien dit, a été obligé de s'incliner devant M. Losey. La raison, elle était, pour moi qui travaillais avec lui depuis plusieurs mois, j'avais compris comment il avait fait. Il avait engagé une petite équipe d'acteurs italiens, travaillant dans des petits théâtres du Veneto, non connus, et il leur avait donné chacun le rôle de l'opéra proprement dit. Et il les avait fait répéter pendant des semaines, avec les chants, etc. Et quand les grands les acteurs qui devaient tourner le film, c'est-à-dire Eduardo Raimondi, Teresa Berganza, etc., sont arrivés, il leur a dit « voilà ce que je veux », et il leur a montré dans chaque décor, avec les jeunes gens qu'il avait engagés, les jeunes femmes qu'il avait engagées, exactement ce qu'il voulait. Et de ce jour-là, il a démarré son film tranquillement, et à la grande surprise d'ailleurs des grandes vedettes de ce film. Et puis, ça s'est passé comme ça, et on est resté dans le temps, on a fait un film en 9 ou 10 semaines, dans de bonnes conditions, et ça a donné ce que tout le monde connaît aujourd'hui.
Avec Donna Anna, j'ai fait quelque chose que les gens seront nombreux à me reprocher, j'en suis sûr. Je la mets dans l'ouverture avec Don Juan lorsqu'il fait visiter sa verrerie à un groupe de gens. Elle est à une certaine distance, mais ils échangent des regards de façon que tout le monde comprend qu'elle l'intéresse et qu'elle est amoureuse de lui, ce qui signifie pour moi que sa rage ultérieure vient de ce qu'elle a été abandonnée, humiliée et jamais aimée. Sinon brièvement et de manière uniquement physique, ce qui est sans doute l'habitude de Don Juan. C'est une aristocrate, elle s'est abaissée, elle ne peut l'admettre. Elle provoque la mort de son propre père et plus tard, celle de Don Juan. Donna Elvire est apparemment la seule à laquelle il se soit uni par quelque chose comme une cérémonie nuptiale et avec laquelle il soit resté pendant 3 jours. Je l'ai montré comme une espèce de sorcière hystérique, une Ophélie de la haute société, une femme rendue folle par l'abandon, un vrai monstre. « Zerlin est certainement une opportuniste. Ça lui plaît de coucher avec le maître, d'entrer dans la grande maison autrement que comme servante. Mais c'est aussi une victime. Elle sait qu'on finira par la jeter dehors, et elle ne veut donc pas perdre Mazzetto. Berganza chante merveilleusement ce rôle. Je trouve tous les chanteurs très bons. Tekanawa et Van Damme sont superbes. Raimondi est extraordinaire. Je le tiens pour un très bon acteur, de même que Riegel. Aucun d'eux n'était très amateur de cinéma. Je suis même sûr qu'aucun d'entre eux n'a jamais vu un film de moi. Au début, ils avaient peur, et ensuite, ils ont eu une attitude amicale. Don Juan est ambigu en ce qu'il fuit sans cesse. Même sur le chemin de l'enfer, il refuse de se repentir. Sa sexualité particulière peut être interprétée comme une façon d'échapper à son homosexualité ou encore aux réalités sociales auxquelles on ne peut rien. Il y a en lui un sentiment de culpabilité lorsqu'il jouit de ce qu'il sait ne pas mériter.
Je vous avais connu Joseph Losey tard dans sa vie à lui, et c'était à l'occasion de la préparation du scénario de La Truite. La Truite, qui c'est un film qu'il souhaitait adapter depuis fort longtemps, d'après le roman de Vaillant, et qu'il a pu enfin réaliser, mais beaucoup plus tard. Alors vous avez été associé à lui dans ce travail, comment est-ce que cela s'est passé pour vous, et d'abord comment avez-vous été contacté?
Oh, ça s'est passé d'une façon magique. Je veux dire, Florence Malraux, la femme de René, qui est ma meilleure amie, connaissait Losey depuis des années et elle savait qu'il cherchait quelqu'un pour La Truite. Et elle a proposé mon nom à la femme de Losey, qui a lu mes livres et qui les a aimés. Et il se trouve que je connaissais plutôt bien l'œuvre de Vaillant, qui avait été mon amie. Et un jour, elle m'a dit « Tu vas rencontrer Losey ». J'ai été absolument éblouie et terrorisée. J'avais une admiration incroyable pour Losey. Par exemple, j'ai remarqué que dans mes carnets, je notais toujours les films de lui que je voyais, alors que je note pas les films des autres gens. Enfin, j'avais jamais rêvé de travailler avec lui. Et alors, je suis arrivée et j'étais très, très intimidée. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est « On m'avait dit que vous étiez drôle ». Alors j'ai dit « Je suis drôle, mais pas à jeun et pas devant vous ». C'était justement un moment où il faisait un régime très rigoureux pour ne pas boire. Et alors, au bout de 8 jours, on s'était mis au travail et c'était tout à fait extraordinaire. Je dois avouer qu'à la minute où on m'avait dit que j'allais travailler avec lui, ou que j'avais l'espoir de travailler avec lui, j'avais relu La Truite de Vaillant. Et que j'avais vu que ça posait des problèmes terribles de transposition 20 ans après, enfin tout, mais je m'étais dit, il faut absolument surmonter tout, enfin il faut qu'on y arrive.
Alors parlons justement de ce scénario donc, qu'il a travaillé avec vous. Quels étaient ses rapports avec la langue française, avec la langue de Vaillant, qui est superbe, mais particulière?
Il n'en avait rien à faire de la langue française, il ne l'entendait pas, il ne l'aimait pas. Il n'intégrait vraiment le scénario que lorsque sa femme Patricia le lui avait traduit. Et simplement, je lui expliquais ce que je voulais faire. je lui expliquais, puis je lui lisais, il me disait toujours « beautiful, beautiful », mais je savais très très bien qu'il n'avait pas intégré les choses, il savait dans quel sens on allait et tout, mais c'était très rare, il n'avait pas de rapport avec la langue française, il l'entendait mal.
Il refusait de la parler.
Il refusait de la parler, mais ça correspondait au fait qu'il était un exilé absolu, qu'il était... Et il avait une passion pour la langue anglaise. Il me reprenait tout le temps quand je disais démocratique pour populaire. Enfin, il m'attrapait tout le temps. Il était très pointilleux pour la langue anglaise. Mais en fait, c'était pour lui terrible de travailler dans une autre langue. Il me disait toujours « donnez-moi des images ». Au début, je suis tellement idiote et pétrifiée. Je me disais « oh, j'oserais jamais vous donner une image ». Et puis finalement, oui, il me demandait des images parce que les mots, ça lui était tout à fait égal. Et en vérité... Il avait eu envie de faire la truite il y a 20 ans, mais ce n'était pas du tout une envie obsessionnelle. Il avait 3 ou 4 projets en même temps. Il a eu le Proust, il a eu le Malcolm Lowry au-dessus du volcan. Et là, au moment où on lui a reproposé la truite, il avait envie de faire Silence, un superbe film qui devait se passer à Chicago sous la neige avec une fille noire, écrit par David Rayfield, qui correspondait absolument à ce qu'il avait envie de faire. Mais il vivait une telle agonie. Quand il ne travaillait pas, il était tellement désespéré que quand tout d'un coup Toscan lui plantier lui a reproposé de faire la truite avec Isabelle Huppert, il a plongé. Et tout de suite, il savait tous les problèmes que le livre posait. Mais son problème, c'était de travailler. Et il s'adaptait à tout.
Joseph Lauzet note à l'attention des comédiens et de l'équipe de la truite. Contenu. J'ai toujours essayé de définir pour moi-même et pour ceux qui travaillent avec moi le contenu et l'intention d'un film en préparation. Parfois, un film se définit de lui-même par le travail qui est fait. Mais parfois aussi, ce genre de rationalisation peut être dangereux si l'on se trouve en présence de faits intangibles, de subtilités, d'ambiguïtés, et ces réserves, me semble-t-il, s'appliquent particulièrement bien à la truite.
Isabelle Huppert.
Frédéric. Le rôle-titre, Frédéric la truite, est le personnage le plus délicat à définir. Je vais essayer d'indiquer certains de ses traits. J'espère qu'aucun des mots que je vais dire ne sera pris comme une limitation du personnage. Frédéric n'est pas froide, pas antisexuelle ou asexuelle, mais elle n'éprouve pas non plus un grand intérêt pour le sexe. Il n'est pas important, ou alors il est pour elle un instrument d'autoprotection. Le scénario ne dit jamais qu'elle est vierge, ainsi que l'a fait Vaillant. Personne n'y croirait plus aujourd'hui, mais il ne dit pas non plus explicitement qu'elle ne l'est pas. Dans son évolution depuis le Jura vers Paris puis Tokyo, elle utilise toujours les gens, mais jamais sans humanité et jamais sans humour. Ce serait une erreur, en fait, si Frédéric apparaissait trop appuyé dans son comportement. Son rire, si souvent indiqué dans le scénario, est une clé très importante de l'humour avec lequel elle voit la vie et la société, et il sera l'une des choses les plus difficiles à obtenir pour l'actrice et le metteur en scène, etc.
Isabelle Huppert, ces notes que vous venez de lire vous étaient destinées, ainsi qu'à tout le reste de l'équipe qui a participé au tournage de la truite. Et quelle était votre réaction à vous, comédienne, lorsque vous avez lu ces notes qui étaient à votre intention particulière, puisque c'est vous qui teniez ce rôle-titre de la truite, Frédéric?
J'étais peut-être un peu surprise qu'ils nous donnent des notes comme ça, parce que finalement c'est quelque chose qui arrive assez rarement. Les metteurs en scène communiquent assez rarement par l'écrit comme ça, par... Des choses un petit peu littéraires, mais Lauzet est quelqu'un comme ça d'intellectuel et d'organisé. Je crois que c'est assez américain comme méthode de travail, cette idée comme ça qu'il faut parler des personnages avant de commencer à tourner, qu'il faut les analyser, qu'il faut préparer les choses. Et puis j'aimais bien ce qu'il disait aussi sur le fait qu'il fallait toujours compter avec l'impondérable dans le cinéma, ce qui me paraît être effectivement l'essence même d'une aventure cinématographique, à savoir qu'on peut toujours préparer à l'avance, on peut toujours faire un découpage technique très précis, on peut toujours prendre des notes et remplir, comme on dit, la colonne de gauche qui, sur un scénario, est la colonne vide, parce que généralement le texte est marqué à droite, et puis à gauche il y a un grand espace que souvent on gribouille comme ça pendant des heures. Et j'aimais bien comme ça cette affirmation qu'il fallait effectivement toujours laisser place à l'imprévu et aux subtilités et à l'ambiguïté. Et je crois que le travail avec Lauzet reposait effectivement beaucoup là-dessus. Ce qui était très surprenant, je me souviens, face à un point de vue, une affirmation très technique, il faisait très très peu de prises, Lauzet. Et ça, c'était absolument fascinant, avec cette sûreté qu'il avait. Je me souviens, on était très souvent abasourdi, on passait des heures à préparer des plans très compliqués, parce que, bon, par exemple, le plan du début du film, qui est dans le bowling, tout ce très très gros plan à la Luma, on avait passé au moins 2 jours à le préparer, bon. Et à la fin, il faisait une prise de... quelquefois 2, mais il avait un œil de lynx, et on avait le sentiment qu'il ne se trompait jamais.
Quel a été votre rapport personnel avec lui, la manière dont il a voulu travailler avec vous, et quelle a été aussi votre réaction lorsque vous avez su que vous alliez avoir à tourner avec Lozé?
Comme toujours, quand on sait qu'on va tourner avec un grand metteur en scène qui fait partie un peu de votre panthéon cinématographique, c'est un peu comme si le mythe touchait à la réalité, d'autant que Lozé était, enfin, à l'époque où j'ai tourné avec lui, était un vieux monsieur, donc quand moi j'ai commencé à vouloir faire du cinéma... Il était bon, un grand metteur en scène qui me paraissait inatteignable, enfin parmi ceux avec lesquels je n'aurais jamais l'occasion de travailler. Donc c'est vrai que quand ça se présente comme ça, on est un petit peu choqué. Puis je pense qu'on passe toute finalement la durée du film avec cette idée-là quand même, avec l'idée comme ça qu'on vit quotidiennement avec quelqu'un comme ça qui appartient déjà un peu à la légende, à la mythologie. Puis en plus j'avais lu son livre qui s'appelle « Le livre de Lozé ». Qui est écrit par Michel Simon. J'aimais bien ce livre parce qu'on sentait à quel point Lozé était quelqu'un de courageux, à quel point il s'est battu. C'est toujours une leçon comme ça de vie et d'énergie, de voir que c'est jamais par hasard finalement qu'on devient grand, et c'est toujours au prix de difficultés énormes. Il y a toujours dans des vies comme ça finalement 1000 fois plus d'échecs que de réussites, et lui a toujours traverser ces événements avec beaucoup de courage. Et puis ce qui me frappait aussi, c'est qu'on sentait qu'on tournait comme ça avec... Il avait un côté très hollywoodien, Lozé, très... Il avait son chauffeur, il avait sa secrétaire. Le standing était très très important pour lui. Il entendait être traité comme un prince qu'il considérait qu'il était. Mais on sentait là la marque de quelque chose de tout à fait américain. Il avait un côté comme ça très... très royal.
C'est vrai que sa légende était fausse. Moi, quand je l'ai approché, on m'avait dit il est méchant, il est coléreux, il est injuste. C'est pas vrai, il pouvait l'être, mais quand il vous avait accepté, il était absolument angélique, et il vous donnait la faculté d'être intelligent, d'être bien. Enfin, et si la truite a été un échec, c'est parce qu'il a travaillé dans le désespoir, que tous les 3 mois, on nous disait que la Gaumont ne voulait plus faire le film. Que... Alors, il perdait ses forces, et je n'arrivais plus à le faire travailler. On a eu un problème, j'ai une souvenir très précis, c'était tombé, tout d'un coup, on nous dit « Peut-être ça marchera si vous allez en Allemagne. » Et pour un voyage qui se passait dans la truite, en Amérique, enfin dans les réserves de Peau-Rouge. Alors on a été en Allemagne, et je le voyais marcher dans Berlin, où il savait que c'était impensable qu'une petite fille du Jura soit bluffée dans les années 80 d'aller à Berlin. Et il regardait les endroits, il y avait une tristesse dans ses yeux parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas inventer la truite en Allemagne, vous comprenez. Et quand on a compris, par exemple, que le Japon, c'était une réponse, au Japon, il marchait, il découvrait les endroits, il rajeunissait à vue d'œil parce qu'il voyait ce qu'il pourrait mettre dans la truite qui impliquait la cruauté du monde moderne qui l'avait impressionné dans la truite dans les années 60.
Un cousin plus âgé que moi m'a dit un jour, quand j'avais 16 ans, au beau milieu d'une conversation très intime et très confidentielle, « Joseph, pourquoi as-tu tant d'appréhension ?» Et j'essayais de m'examiner pour voir si j'en avais tant. Et je constatais que c'était vrai. C'est une question que je me pose encore. Pourquoi ai-je tant d'appréhension ? Mais c'est vrai, et d'autres gens aussi en ont fait la remarque, je peux trouver des causes. L'insécurité de l'enfance, l'insécurité de l'école, l'insécurité de Hollywood, encore accentuée par la liste noire, l'insécurité des deux guerres et beaucoup d'autres sortes d'insécurité, y compris sexuelle, dans une certaine mesure. Tous ces éléments ont contribué à me forger une personnalité qui anticipe les catastrophes pour essayer d'en moins souffrir. Ce n'est pas pour empêcher la catastrophe, parce que je ne crois pas que ce soit possible, Mais si on anticipe le pire, ce qui arrive est toujours un peu mieux que ce que vous aviez prévu. C'est comme la peur que j'ai toujours en recevant un télégramme.
Alors, une chose que l'on sait moins de Joseph Losey, qui est pourtant tellement importante pour tous ceux qui ont travaillé avec lui, c'est l'extraordinaire fascination qu'il exerçait sur tous ses collaborateurs proches et lointains, sur les équipes techniques, notamment lors de tournage, et puis sur les gens qu'il rencontrait. Vous étiez tous un peu amoureux de lui, il faut le dire.
Absolument, mais il était parfaitement envoûtant. Et quand il posait, quand il vous regardait, on fondait comme une banquise. Mais je veux dire, en plus, il était... Il fallait qu'on lui plaise. Mais après, il avait un pouvoir de séduction incroyable et il était tellement... Il ressemblait à personne, alors on était toujours fascinés par sa rapidité de voir les choses, par l'intensité qu'il mettait aux choses et l'impression qu'il vous apprenait tout le temps quelque chose et qu'il voyait des choses que personne ne voyait. Et on avait l'impression d'avoir affaire à un génie. Et comme il était d'une... Il n'avait aucune vanité, il en avait peut-être dans des, comme ça, d'une façon infantile, mais il n'en avait aucune. On était passionnés, envoûtés, et d'ailleurs, il pouvait être très cruel, justement, parce qu'il avait gardé ça de l'enfance, il pouvait être très très méchant. Tout de suite, le lendemain, il vous disait « je m'excuse pour hier », mais il y avait des moments où il ne pouvait pas s'empêcher d'être méchant, mais en vérité... c'était un rapport qui ne ressemble à aucun autre rapport de travail que je peux vous dire. Et il y mettait beaucoup de séduction. Et oui, il avait une cruauté qui venait d'une tendresse qu'il n'osait pas exprimer aussi. Il était extrêmement tendre, c'est pour ça qu'il buvait. Il avait, quand je lui disais « Why do you drink ?», il disait « By fear of everything », par peur de tout. Donc il avait besoin de boire pour approcher les autres. Et cette vodka, c'est sa clé absolue, parce qu'il lui fallait quelque chose pour approcher les autres. Et il oubliait tout dans le travail, il se transfigurait. C'est pour ça que toutes les équipes, tout le monde était amoureux de lui. C'est qu'on voyait quelqu'un de tellement capable et de tellement drôle en même temps. S'il n'aimait pas un comédien ou s'il n'aimait pas quelqu'un, il pouvait être d'une telle cruauté dans le regard. Ça ne ressemblait à rien. Tout le monde avait l'impression qu'il commençait à vivre.
En 1982, après l'échec de la truite, Joseph Losey décide de rentrer à Londres. Patricia Losey.
Et heureusement qu'il a fait Steaming. Mmh.
Alors racontez-nous Steaming, comment le film s'est monté, car cela on n'en sait rien du tout
en France. On ne peut jamais raconter les films, comme vous le savez.
Non mais l'histoire de leur existence.
C'est une histoire de femmes de différentes conditions, de classe et de tempérament, qui se retrouvent dans des bains turcs, presque comme par hasard. Et au début, elles se connaissent vaguement. Et elles y vont pour relaxation, mm-hmm. et pour être vraiment propres. Et pour échapper au monde. Et quand il y a un problème, qu'on veut démolir les bains turcs, les femmes décident de se mobiliser. Et avant de pouvoir agir ensemble, il y a des moments très durs où elles se détestent et elles se disputent. Et tout ça mène à une coopération entre elles. Et une amitié.
À votre avis, Patricia Losey, pourquoi Joe Losey s'est-il intéressé à ce sujet? Je crois qu'il est tiré d'une pièce de théâtre qui a été jouée à Londres. Qu'est-ce qu'il a
écrit
séduit?
Écrit par Neil Dunn. Mm-hmm. Une pièce absolument sur la vie. Sur les femmes et la vie. Et peut-être même un petit peu sur la vie secrète des femmes. La vie, les femmes quand il n'y a pas d'hommes autour.
Alors ce film que personne n'a vu au fond, puisque personne...
Non, mais tout le monde va le voir.
Que tout le monde est impatient de voir. Que devient-il aujourd'hui? Où en êtes-vous?
Je sais que le film va être distribué par qui et quand, je ne sais pas, mais je sais que c'est...
Il est totalement achevé, Lozé l'avait complètement terminé lui-même.
Il l'avait terminé, même il a refusé d'entrer en clinique, il a terminé le montage entièrement, et il avait beaucoup parlé de la musique. Enfin, la musique a été enregistrée quand il était déjà malade, mais il l'a entendu, il l'a écouté, et il l'a approuvé.
Oui, donc le film a été totalement fait par lui.
Oui, il a terminé.
On a même dit un petit peu au-delà de ses forces.
Non, je ne crois pas. Si on va mourir, il vaut mieux finir son boulot avant, non? Je pense que c'était mieux. Je trouve ça très, très beau.
Joseph Losé parmi les siens. Un portrait proposé par Dominique Rousset. Assistante Claude Giovannetti. Mixage Marie-Dominique Bougot, Pierre-André Tellier. Les textes extraits du livre de Losé, Entretien avec Michel Simon, paru chez Stock, est élu par Xavier Marchand.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 4 décembre 1984. Vous pouvez la réécouter en ligne sur le site franceculture.fr ou la télécharger à la rubrique Les Nuits de France Culture.
Dying, a darn good reason why a woman starts crying. A reason for a mole, a reason for a dimple. There ain't no reason why a man's so simple.
Shout, sister, shout.
Yeah, hallelujah.
Shout, sister, shout.
Yeah, hallelujah.
Shout, sister, shout.
Yeah.
Tell the whole world what it's all about.
Honey, there's a way to be brilliant. A way to be a fool, a way to get to heaven, observe the golden rule. A way to get a sweetheart and a way to get a wife. And the day you quit me, baby, that's the way you lose your life.
Shout, uh-huh. Sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Oh, yeah.
Tell the whole world what it's all about.
There's a reason for that a doctor gives a patient a pill. A reason to dance, a reason to sing. Ain't no reason that a band can't swing. I'll understand the birds and you understand the bees. We all understand why a rat eats cheese. I understand my dog and you understand your cats. And fill me full of rhythm, you understand that.
Shout, oh, yeah. Sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Tell the whole world what it's all about.
You know I'm gonna shout.
Shout.
It's all about.